105.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Bonsoir, vous posez votre question ?
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale ? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde ?
Où est-ce qu'on va, quoi ? On veut faire la guerre aux Russes ? Et il aurait fallu se poser cette question avant l'agression russe en Ukraine. Est-ce qu'on veut faire la guerre aux Russes ? Non. Alors si on ne veut pas faire la guerre aux Russes, discutons avec réellement de coopération, de paix en Europe, de désarmement nucléaire au moins en Europe, etc. Mais on n'a rien fait de tout cela. Je ne justifie pas l'attaque russe ni la politique militaire des Russes. J'ai pas essayé de justifier la politique de Poutine, j'ai essayé de l'expliquer. Parce que si on veut négocier, il faut comprendre. Si on reste sur des positions comme ça, bellicistes, là, il n'y a plus de solution. Il faut négocier avec les Russes. Qu'ils nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas.
Bah oui, la diplomatie consiste à parler avec des gens qui ne sont pas toujours des amis. Sauf si on a envie de se prendre un missile nucléaire sur le coin de la gueule, évidemment. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Troisième volet de cette série autour du drame ukrainien. Guerre en Europe, tristesse pour les morts, les réfugiés et aussi pour les gamins qu'on envoie faire une guerre à la con, comme toutes les guerres d'ailleurs. Paul Valéry disait « La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. » Au cours de la dernière émission, notre ami André, le prof d'histoire géo, a commencé un exposé de faits historiques qui pourraient éclairer l'actuelle agressivité des Russes, sans l'excuser évidemment. Il ne s'agit pas de légitimer un acte de guerre criminelle commis par un État autoritaire. Parce qu'en géopolitique, on ne raisonne pas en termes de gentils et de méchants, mais en termes pragmatiques de rapports de force. Et ça peut sembler cynique, parce que ça l'est. Puis au passage, il y a plus d'un siècle, hein, les méchants, les barbares, les Huns, les assassins d'enfants dont il fallait que le sang abreuve nos sillons, ben c'était pas Poutine, c'était les Allemands, les Boches, les Schleu. Et en 14-18, ces discours-là ont coûté 1 300 000 morts à la France. Et puis les affreux Allemands d'hier sont aujourd'hui devenus nos gentils voisins. Aujourd'hui, André va continuer son exposé en revenant notamment sur cette période qui va de 1991 à la chute de l'Union soviétique. Époque où les Russes se sont montrés très conciliants avec l'Occident pour n'essuyer qu'une hostilité occidentale pilotée par les États-Unis. Alors pendant que les Ukrainiens ont leur pays à feu et à sang, bah oui, c'est sensible de faire de l'histoire à froid en regardant la guerre sur des écrans. La dernière émission avec André a d'ailleurs interpellé Yann, un ami, qui m'a écrit ce qui suit. Oh là là, épique ton émission! Poutine et son cercle proche a bien fait table rase et il s'agit bien aujourd'hui d'une oligarchie qui détient 100% d'une richesse du pays et qui n'en a rien à foutre de son peuple. Il s'agit bien là d'une poignée de puissants dont la seule motivation sont l'orgueil et l'argent. L'humiliation post-URSS que vous expliquez dans l'émission ne peut pas justifier cette agression de la Russie contre l'Ukraine. Alors à mon ami Yann, j'ai répondu ce qui suit. Yann, tout à fait d'accord avec ton analyse. Nous disons bien dans l'émission que Poutine semble bien être ce qu'on en dit, brutal, KGB, assassin, oligarque, autocrate, etc. Mais nous n'avons pas loué Poutine, mais plutôt tenté d'exposer le nationalisme dont il se sert. Je te cite, Yann. Oligarchie qui détient 100% d'une richesse du pays et qui n'en a rien à foutre de son peuple. Il s'agit bien là d'une poignée de puissants dont la seule motivation sont l'orgueil et l'argent. Mais Yann, cette description convient aussi parfaitement à nos dirigeants. Ne penses-tu pas que la France est elle aussi dirigée, et depuis fort longtemps, par une oligarchie qui détient environ 100% d'une richesse du pays, moins les quelques miettes qui relèvent encore du service public, qui n'en a rien à foutre de son peuple, et qu'il s'agit bien là d'une poignée de puissants dont la seule motivation sont l'orgueil et l'argent? Macron, Sarko, Hollande, Chirac, tous au service des riches. Et c'est pour ça qu'on dit dans l'émission que c'est légitime de taper sur Poutine, mais qu'avant de taper sur les Poutines des autres, on ferait peut-être bien de balayer chez nous, qui sommes gouvernés par des gens parfois guère plus recommandables, mais peut-être apparemment un peu plus polis. Des gens qui nous emmènent dans des guerres plus ou moins impériales, mais pas contre nos voisins immédiats. Encore que la Libye, en 2011, par exemple, pas loin de chez nous. Alors voilà, oui, l'agression dont les Ukrainiens sont victimes, c'est un sujet glissant. Et ça, c'est sûr. Contrairement à la Russie de Poutine, en France, on peut encore s'exprimer librement et se poser des questions légitimes, et notamment sur une radio libre comme celle que vous écoutez en ce moment. Mais bon, le sang impur qui abreuve les sillons, ça commence à bien faire. Bref, la suite, c'est tout de suite avec André et la suite de son exposé, historique d'actes peu amicaux, voire hostiles des Occidentaux à l'égard des Russes. Salut André.
Bonjour à tous. Oui, c'est avec l'Ukraine que le ressentiment russe va atteindre un point de non-retour. Parce que l'Ukraine, c'est pas la Géorgie, c'est pas les Pays-Baltes, etc. J'ai entendu tout récemment sur le média l'intervention d'un spécialiste de géopolitique, Bertrand Badie, qui est auteur d'un remarquable ouvrage, Les puissances mondialisées. C'était très intéressant ce qu'il disait sur les événements actuels. Tout d'abord, il refuse totalement de parler de nouvelle guerre froide. La situation est extrêmement différente, très très différente du début de la guerre froide. En revanche, à propos de l'attitude occidentale à l'égard de la Russie, il parle lui aussi de promesses non tenues, de la réduction au silence de l'OSCE, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. C'était une organisation qui avait été créée à la fin du bloc soviétique, pour régler les problèmes de coopération et de paix en Europe. Instrument très précieux qui aurait dû être utilisé par les Européens pour créer de nouveaux rapports avec les Russes. Et il parle aussi de l'arrogance des Occidentaux et des humiliations subies par la Russie.
Tu nous as rappelé au précédent épisode, André, aussi, qu'à la chute de l'Union soviétique en 91, les Occidentaux, donc en fait les Américains, avaient promis aux Russes que l'OTAN ne progresserait pas plus à l'Est. Cette promesse occidentale, cette promesse états-unienne, n'a pas été respectée.
Bien sûr, on a bien vu, on a bien pointé que c'était là l'origine et c'est là que devront porter les négociations futures, obligatoirement. Où on maintient un état de guerre, d'affrontement, même quand il ne dit pas son nom, avec la Russie, ou bien on trouve un accord avec ces gens-là. Trouver un accord avec ces gens-là, c'est supprimer la menace que l'on fait peser en permanence sur eux, parce qu'après tout, on a parlé de la puissance nucléaire des Russes, etc., qu'ils brandissent et tout, mais enfin, la puissance nucléaire des Occidentaux n'est pas moindre. Elle existe, et elle est aux portes des Russes. La guerre, elle est différente. Elle est avec des missiles antimissiles, des systèmes de repérage, de navigation satellitaire, etc. Et dans ce domaine-là, les Russes ne sont pas tellement inférieurs aux Américains. Et les Américains en sont conscients. Les Russes ont mis au point des fusées très, très rapides, beaucoup plus difficiles à intercepter que les anciennes fusées. C'est un élément à prendre en considération. De toute façon, il ne faut pas en arriver là. Hein. C'est évident qu'un affrontement Russie-États-Unis... Je ne pense pas d'ailleurs que les États-Unis souhaitent cet affrontement. Ils vont faire comme d'habitude, ils vont laisser les pays européens se démerder. Hein. Ils provoquent la guerre et ensuite, après, vont tout faire pour pourrir la situation, mais certainement pas intervenir. En fait, leur ennemi, là, pour l'instant, leur concurrent au niveau mondial, c'est la Chine. La Chine qui suit les événements avec... intérêt. La Chine a plutôt tendance à se mettre à la place des Russes qu'à la place des Américains, c'est évident. Eux aussi, les Chinois, sont en but à des actes disons, inamicaux de la part des Américains. Eux aussi, ils ont été, ils sont encore en but à des tentatives de dissidence de certaines régions, le Tibet, les Ouïghours, etc. C'est, ils gardent ça à l'esprit. Et Taïwan a été la, enfin, le dernier dépeçage de la Chine, en quelque sorte. Hein. Taïwan est une création américaine. La question dont on parle, notre sujet n'est pas la Chine, n'est pas non plus directement l'impérialisme américain. Il faudrait sortir de cette situation de grande puissance. D'ailleurs, il existe des pays émergents qui comptent dans le monde actuellement, énormément, et dont on parle pas, l'Inde, le Brésil, l'Amérique du Sud de manière générale, etc., et même les pays d'Afrique, tous ces pays comptent. L'humanité, elle n'est pas seulement dans l'Europe occidentale, en quelque sorte, il aurait fallu en tenir compte dans notre diplomatie, hein, au lieu de s'aligner servilement derrière la politique de Washington, il aurait fallu essayer de penser plus large, penser mondial, ce qu'on n'a pas fait. Et on peut parler de l'ineptie, hein, de notre diplomatie depuis une bonne trentaine d'années.
Avant qu'André n'aille plus loin dans son exposé, petit rappel de ce que disait notre ami Cédric, le prof d'histoire géo, au premier volet de cette série.
Jusqu'à quand on remonte ? Parce que l'un des arguments qui est mis en avant par Vladimir Poutine, c'est effectivement que le berceau de la civilisation russe, en fait, bah, c'est Kiev, hein, c'est la principauté de Kiev et Moscou. Et donc, la terre qui est aujourd'hui ukrainienne serait russe. Faire attention à ce genre d'argument, parce qu'en ce cas-là, les Italiens vont revendiquer la Gaule. Et ce genre d'argument, vous voyez, qui remonte à des époques antidiluviennes en disant « Ah, cette terre a vu le berceau de notre civilisation, je sais pas quoi », on peut justifier tout et n'importe quoi.
On retrouve donc André pour une nuance dans l'analyse, car au-delà d'une guerre entre Russes et Ukrainiens, cette guerre Russie-Ukraine serait-elle une guerre entre Russes ?
L'Ukraine, c'est pas un pays quelconque, c'est pas un pays du Caucase, c'est pas les pays baltes. L'Ukraine, c'est pas un morceau quelconque de l'ancien empire soviétique. Ça a été longtemps, longtemps la Russie. Ça a été aussi la Pologne. Les frontières, c'est très compliqué, les frontières de ces pays-là, parce que d'abord, il n'y a pas de frontières naturelles, pour ainsi dire. C'est pour les fleuves qui arrêtent, il n'y a pas de montagnes. Hein. Et les peuples slaves se sont mélangés. Au départ, il y avait un peuple slave, et puis ces peuples se sont répandus, se sont diversifiés. Hein, les langues ont un peu évolué, mais enfin, c'était au départ les mêmes peuples, et les différenciations étaient très, très difficiles. Et ces peuples-là, que ce soit les Polonais où les Russes avaient des politiques d'expansion au détriment de leurs voisins. L'Ukraine, là-dedans, est un pays un peu marginal qui, jusqu'au XVIIe siècle, a été polonais. Les envahisseurs, les dominants, c'était les Polonais. Les Polonais avaient un grand empire qui s'étendait sur une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie et la Biélorussie. Et l'Ukraine, et tout l'effort des Russes, hein, à partir de Pierre le Grand, en gros, hein, début du XVIIIe siècle, ça a été de repousser les Polonais, de repousser leurs frontières le plus à l'ouest possible. Et au XVIIIe siècle, l'Ukraine actuelle est en gros, en grande partie russe. L'effort des Russes a consisté aussi à chasser les Tatars de Crimée. Le littoral nord de la mer Noire a été peuplé par les Tatars, qui est une population turco-mongole, islamisée, et qui détenait la Crimée. La guerre des tsars, ça a été de conquérir la Crimée sous Pierre le Grand, sous Catherine II essentiellement. Et les Tatars ont été chassés de Crimée. Il y restait des populations tatares jusqu'à leur exil, leur déportation par Staline au début de la Seconde Guerre mondiale. Staline les suspectait d'être éventuellement les agents de l'envahisseur éventuel, etc., en Crimée, et les a déportés à l'est, par les populations tatares. Et la Crimée est de population russe depuis fort longtemps. On y parle russe, c'est des Russes. Hein, il ne reste plus grand-chose de l'occupation tatare. Et donc, lorsque l'Ukraine s'est formée, bon, la Crimée fait partie de l'Empire russe. C'est l'Empire des Tsars qui s'est étendu, hein, jusqu'à la Pologne, en quelque sorte, refoulant la Pologne vers l'ouest, et même conquérant la Pologne, puisque la Pologne a fait partie de l'Empire des Tsars Varsovie était en Russie, enfin dans l'Empire des Tsars. La Pologne avait été d'ailleurs partagée entre les grandes puissances dont on parlait de la Sainte Alliance. Hein. Il y avait la Prusse, avait une partie de la Pologne, l'Empire d'Autriche-Hongrie aussi avait une partie, mais la plus grosse partie, c'était les Russes qui avaient la domination sur la Pologne. Et d'ailleurs, les Polonais se sont soulevés à de nombreuses reprises et ont été durement réprimés par l'armée russe, par l'armée du Tsar. À l'époque de Pierre le Grand, la frontière est à Kiev. La frontière entre la Russie et la Pologne est à Kiev. Puis ensuite, après, ça va être repoussé. Donc, les Russes et les Ukrainiens ont une histoire commune et ils ont une langue commune. C'est la même langue. Nicolas Gogol, grand auteur ukrainien, est un Russe. Il s'exprime en russe. Et il est publié à Saint-Pétersbourg, etc. Enfin... Alors, l'Ukraine a tout le temps été un territoire très convoité parce que c'est une terre très riche. Hein, le fameux Tchernozium, les terres noires d'Ukraine, sont des terres à blé, les plus remarquables terres à blé du monde. Hein. Et c'est un débouché sur la mer Noire. La Russie tient, comme les prunelles de ses yeux, à la Crimée et à l'Ukraine, qui est littorale de la mer Noire. Alors pendant la révolution russe de 17 à 21, le contrôle de l'Ukraine par Moscou a été remis en cause. Hein. Dès que la révolution a éclaté, l'Ukraine a été complètement partagée entre l'armée de Denikin, qui était une armée blanche, hein, soutenue par les Occidentaux, par les partisans de Makhno, les paysans anarchistes de Makhno ont également tenu une partie de l'Ukraine, également les partisans de Petliura, également anti-bolchévique, et par l'armée polonaise aussi, qui, dès 1918, est intervenue contre la Russie et les Soviets. L'armée rouge a fini par l'emporter, et l'Ukraine, qui appartenait à l'Empire russe, est devenue partie intégrante de l'URSS, est devenue une république socialiste soviétique, dorénavant faisant partie de l'URSS. Par exemple, Nikita Khrouchtchev était ukrainien, comme beaucoup de dirigeants d'ailleurs soviétiques. Hein. C'est d'ailleurs lui, petite parenthèse, et Khrouchtchev qui, dans les années 50, je crois, a rattaché la Crimée à l'Ukraine. À l'époque, personne ne songeait que l'Ukraine pourrait se séparer de la Russie. C'était impensable. Aucun ne pouvait y songer, sauf Hitler, bon, évidemment. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors là, ça a été assez dramatique. Hein. L'Ukraine, d'abord, était entièrement occupée par l'armée allemande, hein, qui s'y est livrée à des massacres épouvantables, massacres de communistes et de juifs mélangés. Hein. On ne faisait pas la distinction. Hein. Il y a eu, par exemple, la Babi Yar, célébrée par une symphonie de Shostakovich. À Babi Yar, des dizaines de milliers de soviétiques ont été tués d'une balle dans la tête et enterrés dans une immense fosse par l'armée allemande et par les collaborateurs ukrainiens. Parce que dans cette conquête de l'Ukraine, la droite ukrainienne, qui avait gardé les souvenirs de la révolution russe, hein, a repris les rênes du pouvoir grâce à la faveur de l'occupation allemande et s'est livrée avec les Allemands au même massacre antisémite, etc., et anticommuniste, hein, c'est certain. La reconquête de l'Ukraine par l'armée rouge a donné lieu à des combats assez gigantesques, hein, en particulier autour de la ville de Kharkov, qu'on appelle aujourd'hui Kharkiv, et qui s'est toujours appelée Kharkov. Et ce sont ces combats qui ont brisé la machine de guerre allemande, hein, nous en avons parlé précédemment. Je voulais donc remettre en contexte l'Ukraine pour comprendre l'état d'esprit des dirigeants russes et d'une grande partie de l'opinion publique russe qui les soutient. Alors, revenons au sujet. En 2010, il y a élection du président ukrainien Viktor Yanukovych. Fin 2013, il est renversé par des manifestations, de grandes manifestations populaires, etc., soutenues, très largement soutenues par les médias occidentaux, par Washington et par les médias occidentaux, c'est souvent la même chose.
C'est ce qu'on avait appelé à l'époque la révolution orange, non ? C'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Pour Moscou, il ne fait pas de doute que les Occidentaux ont soutenu le coup d'État afin d'obtenir, coûte que coûte, le rattachement de l'Ukraine au camp occidental. C'est effectivement ce qui s'est passé. Il s'agissait de virer Yanukovych qui était trop mou, pas favorable au rattachement de l'Ukraine à l'OTAN, etc., et à l'Occident, qui est de le remplacer par quelqu'un de beaucoup plus maniable. C'est exactement ce qui s'est passé, en quelque sorte. Alors, les Russes ont réagi immédiatement à ce qu'ils considèrent comme un coup de force des Occidentaux et une ingérence en Ukraine. Ils se sont d'abord ingérés eux-mêmes en Ukraine. Ils ont annexé la Crimée. Ils ont soutenu militairement, sans le dire, hein, les séparatistes du Donbass, Ils ont créé des régions séparatistes, ils ont fait comme les autres à l'envers, quoi. Ils ont créé des régions séparatistes, ils n'ont pas eu de mal d'ailleurs, parce que en Ukraine, il y a des Russes. c'est même la plus grande partie de la population, c'est des Russes, tout simplement. La distinction n'a jamais été faite du temps de l'URSS entre Ukrainiens et Russes. Ils étaient en Ukraine, mais c'était le même peuple. C'est récemment qu'on fait des différences, un peu comme en Yougoslavie, ça, on crée des différences pour couper le pays en morceaux.
André, qu'est-ce que le Donbass ? Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et où ça se situe ?
C'est une région de l'Ukraine, la région du fleuve qui s'appelle le Don. Le fameux Don paisible dont parlait Sholokhov dans son roman. C'était la région des Cosaques, les Cosaques du Don, célébrés par un livre de Gogol qui s'appelle Taras Bulba. Je vous renvoie ces lectures-là, c'est fort intéressant. D'ailleurs, à ce propos, les Cosaques, à l'époque, luttaient contre les Polonais. Bon, c'est-à-dire que l'occupant, c'était les Polonais, et secondairement, les Tatars. Bon, c'est une région riche en charbon, très riche en charbon. Des fortunes de l'Ukraine, ça a été le bassin du Don dont se sont emparés les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était une région très très riche. Le Don paisible, c'est le Donbass, c'est une région bien sûr peuplée de populations dont il est difficile de dire qu'ils sont ukrainiens, russes, c'est la Russie. À l'origine d'ailleurs, je précise que dans le vocabulaire, on tend jusqu'à la fin du 19e siècle, à propos des Ukrainiens, on parlait de petits russes, par opposition aux Russes de Moscou qui étaient les grands russes. C'est bon, c'est comme ça, c'était le vocabulaire de l'époque.
Il y a eu récemment des événements autour du Donbass.
Ah oui, c'est-à-dire que Moscou, les Russes, ont installé dans l'Ukraine des régions autonomes, enfin des régions russes, qui s'opposent à la politique du gouvernement de Kiev. Ils ont fait sécession, en quelque sorte. C'est-à-dire, nous, on n'est pas d'accord avec la politique de Kiev, évidemment, soutenue par Moscou, armée par Moscou, etc. Une épine dans le pied de la politique de Kiev et des Occidentaux. Il s'agissait d'emmerder les Occidentaux. Et alors, évidemment, à nouveau, les populations prises en otage, etc. Tu vois bien un peu ce que ça peut être. C'est la naissance d'une guerre civile. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Cette histoire du Donbass, c'est très récent.
Soutien militaire à peine caché aux séparatistes du Donbass dans les années 2013-2014. Alors, les capitales occidentales ont immédiatement réagi aux initiatives russes, en dénonçant une remise en cause sans précédent de l'ordre international de l'après-guerre froide. Il est bien temps. On peut dire que les choses, ça y est, sont pliées. Un espoir naît cependant en septembre 2014 par la signature des accords de Minsk. Minsk est la capitale Biélorussie. Ces accords sont signés par la France et l'Allemagne. Il s'agit de mettre fin au combat dans le Donbass. Mais 7 ans plus tard, en 2021, le processus est enrayé. Il est enrayé, entre autres, parce qu'on prend prétexte, on dit, mais Kiev continue de refuser l'octroi d'une autonomie au Donbass, comme le prévoit le texte. Le texte prévoyait qu'on accordait une autonomie aux régions russes du Donbass, en Ukraine. Kiev refuse. C'est tout ou rien. Pas de réaction des Européens. À partir de ce moment-là, les Russes vont négocier directement avec les Américains. Pour eux, c'est eux les Américains qui tirent les ficelles, donc c'est avec eux qu'il faut négocier. Pour eux, c'est les véritables soutiens de Kiev, c'est les Américains. Et donc, ils vont négocier avec les Américains. Autant dire que l'Europe n'a plus aucune voix à la parole et que les gesticulations de Macron, c'était de la daube. Rien du tout. D'ailleurs, on peut noter au passage que Moscou n'a plus aucune confiance dans les Allemands et les Français. Parce qu'au départ, l'espoir des Russes, c'était de pouvoir négocier avec les Allemands. Les Allemands et les Français ont des intérêts communs avec la Russie. Pas seulement en matière énergétique, à tout point de vue. Les Allemands sont très intéressés par le marché russe. Les Français sont très intéressés par les matières premières. Il y a des affaires à faire avec les Russes, beaucoup d'affaires. Notre industrie agroalimentaire a eu un client extrêmement puissant, très important, qui était la Russie. La population russe appréciait les produits agricoles français. Et donc, tout ça a été fini après avec les sanctions, on a arrêté tout, etc. On a failli également, sous Hollande, leur vendre des frégates militaires. Elles étaient construites, elles étaient mises au point. Il y avait déjà des spécialistes russes qui, à Cherbourg, s'entraînaient à bord des... Et du jour au lendemain, Hollande, aligné sur les Américains comme d'habitude, a dit non, on vend plus de frégates aux Russes. Voilà. On proteste contre tel ou tel fait, etc., qu'on considère comme scandaleux, etc. Bon. En février 2019, les Européens acceptent sans réagir le retrait de Washington du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Ça aussi, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, pourtant c'est invraisemblable. Il y avait un traité sur les forces nucléaires intermédiaires, FNI. C'est tout simplement des fusées nucléaires intermédiaires, c'est-à-dire à moyenne portée. Hein, ces trucs qui font 1500, 2000 kilomètres, etc. Et qui sont destinés à être utilisés en Europe contre les Russes. Il y avait eu déjà le problème des Pershing et des SS-20. Les Américains avaient installé des fusées Pershing, qui étaient ces fusées de ce type-là, nucléaires. On avait les mêmes en France, hein, les fusées Pluton, etc. Dans les pays occidentaux, ces fusées étaient capables d'atteindre Moscou, Kiev, toutes les villes soviétiques au début des années 80. Et il y avait un traité destiné à faire disparaître ou à limiter ces fusées intermédiaires en Europe. Elles nous concernent directement, je rappelle quand même que c'est nous les victimes potentielles de ces fusées, c'est pas les Américains. Bon.
Je me souviens que dans mon enfance et adolescence, années 80, il n'était question à France Inter que de Pershing américain et de SS-20 soviétique, parce que je suis assez vieux pour avoir connu la fin de la guerre froide. Et gamin, il y avait ce truc, mais comme dans les années 50, je suppose, qui planait au-dessus de nos têtes, présent dans nos esprits à l'époque, la possibilité qu'il y ait une troisième guerre mondiale nucléaire. Jusque très tard, finalement, on a eu la trouille d'une apocalypse nucléaire.
Il y avait d'ailleurs d'énormes manifestations pacifistes, et en particulier en Allemagne, une jeunesse très hostile à l'installation de ces fusées Pershing américaines qui risquaient de nous valoir un bombardement soviétique équivalent, etc. Et les jeunes Allemands à cette époque-là, enfin ceux qui étaient pour la paix, disaient on préfère être russe que nucléarisé, hein, que pulvérisé, que réduit en poussière, que mort. Signalons qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu non plus de réaction en France. Même la France de gauche, la France de Mitterrand n'a pas protesté, à laisser faire également. Nous n'avons rien dit à propos de ces fusées dont nous serions les premières victimes, les premières cibles. On a laissé en quelque sorte les Américains continuer à installer leur arsenal en Europe, dirigé contre les Soviétiques, mais dont nous sommes, nous, parce que les fusées soviétiques ne sont pas capables d'atteindre les États-Unis, mais sont tout à fait capables à cette époque-là, et maintenant les fusées russes, tout à fait capables d'atteindre les pays d'Europe occidentale. Alors même que les pays occidentaux auraient dû tout faire depuis 90 pour supprimer les armes nucléaires en Europe, parce que les gens aient une dissuasion nucléaire contre une attaque possible des uns ou des autres, c'est concevable. Quoique moi, je suis assez contre l'éventualité d'une guerre nucléaire, quelle qu'elle soit. Mais enfin, accepter le déploiement d'armes tactiques nucléaires en Europe, c'est monstrueux. On aurait dû tout faire. Donc tous nos gouvernements successifs, à l'instar d'ailleurs des gouvernements allemands, anglais ou autres, n'ont rien fait pour dissuader les Américains. Or, on avait les moyens. Et il paraît que l'Europe a son mot à dire, ils n'ont rien dit. Comment comprendre la passivité des Européens face à la politique agressive ou en tout cas hostile des Américains à l'égard de la Russie? Eh bien, bon, ils sont à l'Ouest, quoi. Si la situation n'était pas aussi dramatique, on pourrait reprendre la blague de Guy Mollet à propos des communistes. Et il disait les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l'Est. Hein, pour stigmatiser leur alignement sur la politique de Moscou. Ben, on pourrait dire des socialistes et de la droite française qu'ils sont à l'Ouest, entièrement à l'Ouest. Ils n'arrivent pas à imaginer une rupture comme elle a eu lieu sous De Gaulle. Parce que enfin, rappelons-nous quand même la politique gaullienne quand même. Hein, c'est pas que je veux faire l'apologie du général, mais enfin, à cette époque-là, De Gaulle décide de se retirer du commandement intégré de l'OTAN, de dire, voilà, maintenant, si nous faisons une guerre, c'est nous qui choisissons de la faire, c'est pas les autres, on va pas laisser aux États-Unis la responsabilité de faire une guerre pour nous, hein, et nous engager dans une guerre que nous ne voulons pas, par exemple, tu vois. Et en même temps, la France se dote d'une force nucléaire de dissuasion nucléaire, tous azimuts, c'est-à-dire nous avons nos sous-marins, nos vecteurs, etc., nos mirages, nos fusées, etc., et nous avons les moyens de nous défendre, mais nous ne voulons pas que ce soit les autres qui choisissent notre politique étrangère. La France se retire de ça, quelque part, un gros coup de canif dans la politique des blocs. D'ailleurs, à la même époque, la Chine s'éloigne de l'URSS. Ces deux de fracture. Mais malgré tout, les Américains gardent la main haute sur leurs alliés occidentaux et on voit aujourd'hui que rien n'a changé à cet égard. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas les Européens qui décident de leur politique étrangère, ce ne sont pas les Européens qui décident de leurs alliances, de leurs accords, etc. Ce sont les États-Unis. La situation actuelle est entièrement fabriquée par Washington et là-dedans, on est des histrions, on est des guignols, hein, des bouffons. Sauf que c'est nos vies qui sont en cause. Ce sont nos vies, ce sont les vues des Ukrainiens, la vie des Russes, la vie des Européens, etc. Et en fait, nous sommes engagés dans une politique d'affrontement. On ne peut pas dire de bloc, parce qu'en Europe, c'est dirigé uniquement contre la Russie, où l'affrontement se fait avec une Russie seule. Je vais vous donner encore un autre exemple de l'alignement invraisemblable des Européens à l'égard de la diplomatie américaine. Il y a une rencontre Poutine-Biden au sommet en juin 2021. Donc les Américains et les Russes se voient. Ils reprennent langue sur des questions stratégiques. Et il s'agit de la prolongation pour 5 ans du traité de réduction des armes nucléaires New START. Un des nombreux traités concernant les armes nucléaires. Donc discussion entre les Américains et les Russes. Alors l'Union Européenne, parlons-en. Au lieu de pousser dans le sens d'une détente avec Moscou, c'est le moment ou jamais, une détente avec Moscou, rejette le principe d'une rencontre avec le président russe, c'est-à-dire se déclare hostile à ce traité. Alors, la Pologne, principal opposant à cette reconnaissance, à cette politique, dit « cela aurait valorisé le président Vladimir Poutine au lieu de punir une politique agressive ». Bref, la Pologne met son veto. En Europe, il n'y a pas de politique étrangère européenne parce que les Européens ne sont pas d'accord. On le voit aujourd'hui très bien. Et donc, bon, ben voilà, l'Europe n'a rien fait, ne fait rien. Et au contraire, aujourd'hui, on semble mettre de l'huile dans le feu, comme on dit. C'est-à-dire, on va renvoyer des troupes, etc. On va aider militairement l'Ukraine. On va pourrir la situation de guerre civile et de l'horreur qui est en train de se dérouler en Ukraine, au lieu de tout faire pour mettre le pied sur le frein.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed, well, everywhere is war. It's a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south.
got no peace. We Africans will fight, we find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.
Après ce message de sagesse de Marley, suite de l'exposé de notre ami André, le prof d'histoire géo. La guerre en Ukraine aurait pu être évitée. Et il est complètement délirant et criminel d'envisager la guerre contre la Russie, fût-elle celle de Poutine, qui a largement de quoi nous atomiser la gueule. Il faut négocier avec les Russes. André.
Les solutions, elles existent. Enfin, moi, j'ai entendu tout dernièrement le discours de Mélenchon au Parlement français, dont les députés. Très mesuré, très ferme dans les principes. Il s'oppose catégoriquement à l'attaque russe. Il ne la justifie en aucune manière. Et condamne l'agression russe contre l'Ukraine. Et il donne les pistes. On sait que ce n'est pas la première fois qu'il en parle. Et qu'à chaque fois, il a la même ligne. Il faut faire renaître l'OSCE et négocier entre Européens et Russes sur les sécurités européenne. OSCE, c'est l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui a été créée au moment de la fin de la guerre froide, donc de la fin du bloc soviétique. Il s'agissait de recréer les conditions d'une coopération et de la sécurité en Europe, c'est-à-dire de la paix en Europe. C'était la voie la plus sage, la plus valable, la seule voie possible, c'était ça. Or, on a laissé crever cette organisation, on ne l'a pas vraiment fait vivre en quelque sorte, et en fait, à la place d'une politique de paix, de négociation et d'accord avec tous les Européens, ben, on a fait une politique de suivisme à l'égard, entièrement de suivisme à l'égard de la politique américaine, et voilà où cela nous a mené. Alors, tous les discours des va-t-en-guerre qu'on entend à la télé, à la radio, etc., ne changent rien à l'affaire. C'est ça qui a provoqué cette crise et rien d'autre. Ça ne justifie pas l'agression russe contre le peuple ukrainien, mais ça l'explique. Et si on veut faire une négociation, il faut comprendre les raisons des uns et des autres. Il ne suffit pas de stigmatiser, de diaboliser l'adversaire en disant bah, « je ne négocie pas avec le mal, etc. Si on veut manger avec le diable, il faut y aller avec une grande louche, etc. très longue. » C'est ridicule. Il faut négocier avec les Russes, c'est pas avec les Américains qu'il faut négocier. Les Américains, ils sont très loin. Ils vont pas intervenir. Ils vont pas intervenir. Ils ont foutu la merde, ils vont alimenter le brasier, etc. Et c'est tout, quoi. Et éventuellement, ils vont se retirer comme en Afghanistan, hein, après des milliers de morts, etc. Et c'est un échec. En fait, ils ont subi beaucoup d'échecs militaires, les Américains. C'est souligné par les spécialistes de géostratégie actuelle, des échecs militaires. Ils ne veulent plus maintenant, hein, mettre les pieds là-dedans. Ils préfèrent bon, laisser éventuellement les besognes à l'armée française ou aux Anglais ou à ses alliés, etc. Mais tu remarqueras, ils ne s'engagent plus dans ces trucs-là. Maintenant, la guerre, elle se fait autrement, avec des drones, avec les satellites, avec l'information et avec la contre-information. Mais c'est très efficace. Ils ont encore des moyens, beaucoup de moyens. Ils peuvent envoyer des spécialistes. Ils vont envoyer des spécialistes. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Alors bon... Moi, je vous répète, la sécurité du continent européen ne peut être assurée sans, et a fortiori, contre la Russie. Ça a été affirmé par des gens très, très sensés, qui n'étaient pas des pro-russes, des amis des Russes, des collabos et des Russes, etc. C'est le bon sens. Pour rester valable, il faut que ce soit un accord avec les Russes. Après tout, au départ, les demandes russes étaient extrêmement modestes. Elles étaient extrêmement modestes compte tenu de la situation. Je ne veux pas me répéter, mais enfin, c'était faisable.
Donc André, si je comprends bien ton exposé, en fait, d'un comportement d'hostilité vis-à-vis de la Russie qui s'est poursuivi finalement après la chute de l'URSS en 91, est-ce que c'est ce qui explique uniquement l'attitude de Poutine, qui ne nous est pas du tout sympathique, mais on essaye de comprendre une fois de plus la situation depuis la fenêtre des Russes, en tout cas de leurs dirigeants. Donc il y a ce comportement d'hostilité de ce qu'on appelle l'Occident vis-à-vis de la Russie, qui pourtant, après la chute de l'URSS, voulait faire société, enfin faire monde avec le reste du monde. Qu'en est-il de l'argument de la volonté impériale de Poutine? Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, la Russie éternelle, l'impérialisme.
Mais enfin, il est où l'Empire russe? Et c'est quand même assez fort d'utiliser le mot impérialisme à l'égard de la Russie, alors même que l'Empire soviétique a disparu au début des années 90. Il a disparu complètement. La Russie a lâché des morceaux entiers de ce qu'on pouvait considérer comme son empire. Tout l'Asie centrale, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, Arménie, tous ces pays-là ont quitté l'URSS. Pays baltes ont quitté l'URSS. Les Russes ne remettent pas en cause l'indépendance des pays baltes ni l'indépendance de tous ces pays-là. Ça grince seulement pour des pays comme la Biélorussie et l'Ukraine. Parce que c'est, j'ai expliqué, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Mais sinon, la Russie a quitté tout, elle n'a pas de domaine colonial. En revanche, avec la France-Afrique, la France a encore un domaine colonial ou semi-colonial ou néo-colonial. Et parlons pas d'autres pays encore. Quant aux États-Unis, ils pratiquent depuis 200 ans une politique réellement impérialiste, expansionniste et impérialiste, sous des formes extrêmement différentes, etc. Et encore aujourd'hui, l'intervention des États-Unis dans les affaires du monde entier est patente. Alors pour là, il n'y a plus d'impérialisme américain, mais il y a un impérialisme russe. Le bras m'en tombe des mains. La Russie est une toute petite puissance, elle le sait. Et l'économie russe est équivalente à l'économie espagnole. Si on met à part l'immensité du territoire russe avec la Sibérie, et ses ressources naturelles en pétrole, en gaz naturel, etc., si on met également de côté la possession de l'arme nucléaire, c'est une petite puissance, la Russie. Et elle le sait, elle ne demande pas à devenir plus grosse que le bœuf. Elle demande simplement à avoir sa place, la place de la Russie dans le concert. Pas la place d'un petit pays réduit à des hectares de taïga, non, un pays moderne. Parce que la population russe est une population moderne, c'est pas un pays sous-développé. C'est un pays qui a une industrie, c'est un pays qui a une économie, etc. Il y a même maintenant des capitaux. La finance russe, elle a rien à envier à la finance américaine, pas en volume, mais en traficotage, de toutes sortes, etc. Enfin bon, c'est un pays capitaliste tout à fait ordinaire. Mais aucun pays capitaliste n'est soumis de cette manière-là à une humiliation pareille. Et donc, parler d'impérialisme, non, je pense que les raisons que nous avons donné dans la première partie de notre entretien, c'est ça les vraies raisons de l'action russe. Ils ne tiennent pas à s'étendre sur le reste du continent européen, ils ne tiennent pas à s'étendre nulle part, mais ils ne tiennent pas non plus à ce qu'on vienne faire la cuisine chez eux.
Là, au moment où on se parle, là on est début mars 2022, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN.
Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais
faudrait-il, André, évoquer dans l'attitude de Poutine la trouille que des missiles américains occidentaux s'installent en Ukraine sur les frontières de la Russie?
C'est ce qui est prévu. Non, mais c'est pas un fantasme de la part des Russes. C'est ce qui est prévu. Les dirigeants de Kiev, avant l'attaque russe, avant l'agression russe, sont déjà d'accord pour l'installation de fusées et d'installations militaires américaines en Ukraine. Donc c'est pas un fantasme. Les Russes interviennent, leur disent non, vous ne touchez pas à l'Ukraine, vous pouvez faire toutes les révolutions oranges que vous voulez, mais vous n'installez pas de fusées. C'est ce que Poutine a dit, c'est non négociable. Ils peuvent négocier sur beaucoup de choses, ils ont déjà cédé sur énormément de choses, les Russes. Ils ont laissé des portions gigantesques de territoire de la Russie, ça a été quand même un dépeçage. Ils ont laissé, ils ne sont pas intervenus, ils n'ont jamais intervenu dans les pays baltes. Par exemple, les pays baltes reprennent leur indépendance, et puis bon. Alors pourquoi installer dans ces cas-là dans les pays baltes? Pourquoi les pays baltes acceptent-ils de mettre des installations militaires américaines juste en face des Russes? Parce que c'est déjà fait, ça c'est fait, ça déjà. C'est fait, la Pologne c'est pareil. Les Polonais sont anti-russes depuis, je dirais, fort longtemps. L'agression des troupes russes, c'est jamais une solution. C'est la pire des solutions. Il n'y a pas de solution. Je n'ai pas essayé de justifier l'agression russe. Je n'ai pas essayé de justifier la politique de Poutine. J'ai essayé de l'expliquer. Parce que si on veut négocier, il faut comprendre. Si on reste sur des positions comme ça, bellicistes, comme on entend dans les médias aujourd'hui, Là, il n'y a plus de solution. Tu négocies pas avec les salopards, avec le diable, avec le truc comme ça. Tu négocies pas. Faut négocier avec les Russes. Qu'ils nous plaisent ou qu'ils nous plaisent pas. Ça n'a rien à voir avec la démocratie ou la non-démocratie en Russie, avec les, etc. C'est quand même assez terrible, ça. C'est que dans cette période, on va dire depuis 2000, ces 20 ans qui se sont déroulés, on a très peu entendu la voix des Russes. Ils avaient des choses à dire. Hein. En 98, Poutine, dans un discours à Munich, je crois, dénonçait l'unilatéralisme de la politique de Washington. Il faisait ce qu'il voulait sans aucune concertation. Il dénonçait déjà en 98, s'insurgeait contre cet unilatéralisme. Ben depuis, nous sommes alignés derrière l'unilatéralisme américain. Ben voilà où ça nous mène. Bon, De Gaulle avait raison. Ben en quelque sorte, il n'aurait pas fallu s'engager là-dedans, mais bon. Prenons maintenant l'état d'esprit de l'opinion publique française. Hein, voilà. Ces gens, quand même, ont été élevés dans 60 ans d'anti-soviétisme, de mépris et de haine à l'égard des soviétiques et des russes. Hein. Et ben, lorsque l'Union soviétique s'est arrêtée, ben, les gens ont embrayé sur l'anti-russisme. À peu près dans les mêmes termes, etc. On a épousé, en quelque sorte, la haine viscérale de certains dirigeants américains à l'égard des Russes. Il y a un lobby anti-soviétique, puis maintenant anti-russe, à Washington, qui est très puissant, et qui fait entendre sa voix, y compris aux diplomates américains. Non, non, on n'a rien à faire avec ces gens-là, il faut les renvoyer dans leur taïga. Hein. On n'avait pas épousé ce point de vue-là, nous. Mais l'opinion publique en France aussi est très, très influencée par les Américains, Washington, etc. Les bons, c'est les Américains. Tu sais bien, ils sauvent le monde. Alors que qu'est-ce qui menace le monde ? C'est les Russes, les Soviétiques, les communistes. Enfin, c'était le grand complot. Hein. C'est parce que ça joue aussi ça là-dessus, toi. Alors là, l'hystérie qui s'est emparée de l'opinion depuis cette attaque russe. J'ai pas dit que l'événement était anodin hein, ni bénin. Hein. C'est une horreur. Hein. Bon, mais dans des circonstances comme ça, c'est comme en 14. Hein. Il n'y a plus de raison. Il faut attendre des années de malheur, de massacre, de tuerie. Pour dire, on aurait peut-être pu faire quand même différemment. Quoi. Hein, t'es pas obligé de défendre la liberté avec la peau des Ukrainiens. Parce que c'est ça qui se passe en fin de compte. Hein, les Bernard Henri Lévy et compagnie, armons-nous, partez, défendons la liberté en Ukraine, etc. Mais c'est les Ukrainiens qui en prennent plein la gueule. Je veux bien qu'ils choisissent eux-mêmes leur régime politique, les Ukrainiens, mais c'est pas ça dont il était question. Hein. Je pense que les Russes, mais pas un régime anti-russe. La limite, c'était ça. Un régime démocratique, un régime libéral, un régime pro-occidental, ok. Mais pas pro-OTAN. En fait, c'était ça le truc d'achoppement. Donc, faut pas faire uniquement de cette affaire-là un truc de conflit entre un ignoble impérialisme russe et la liberté du petit peuple ukrainien. Enfin,
l'époque est évidemment lugubre et ne prête pas à rire, mais je voudrais pourtant évoquer une blague qu'on a déjà faite dans cette émission. Mais il nous est arrivé de dire que quand même, ces Russes, ils exagèrent parce qu'ils n'arrêtent pas de mettre leur pays à côté des bases de l'OTAN. Et ça, c'est de la provocation. Ça a pu nous faire rire dans de précédentes émissions avant le déclenchement de cette guerre. Bon, là, cette blague continue à dire des choses, à part qu'elle est beaucoup moins drôle qu'avant.
Ce qui a empoisonné aussi le problème, c'est cette montée du nationalisme, parce que bon, impérialisme, ça, c'est du crétinisme politique, bon. Mais en revanche, nationalisme, oui, c'est devenu un pays nationaliste, la Russie. On aurait pu imaginer de s'arranger avec des Russes qui n'étaient pas nationalistes susceptibles, chatouilleux. C'est devenu une puissance militaire et nationaliste, parce que, quelque part, ils ont pensé que c'était le seul moyen de faire valoir leur point de vue, leurs intérêts nationaux, car tout le monde a des intérêts nationaux, n'est-ce pas ? La France a ou des intérêts nationaux, et on a une armée pour faire respecter ses intérêts nationaux. Si nos intérêts étaient gravement mis en cause, nous aurions recours à la guerre. C'est malheureux, c'est pour ça qu'il faut négocier, qu'il faut faire une place essentielle à la négociation et à la diplomatie. Parce que sinon, s'il n'y a plus la diplomatie, il y a la guerre. On a tout fait pour étouffer des accords possibles, des compromis possibles. Je répète, la responsabilité est, au moins dans ses origines, entièrement vers l'Occident. ce qui ne justifie en aucune façon le recours à la guerre par les Russes. On peut soutenir les deux points de vue sans aucun problème, c'était d'ailleurs le discours de Mélenchon. Il a été prudent, hein, parce qu'il y a les élections, donc il a pas parlé des responsabilités occidentales. Là, il a mis de l'eau dans son vin, parce que, bon, en ce moment, on l'aurait immédiatement, on serait tombé dessus en lui disant « Vous êtes un ami des Russes, vous êtes un traître, vous êtes un ennemi de la liberté, etc. » Enfin, un totalitaire comme les communistes au moment de la guerre froide. C'était des salopards, parce que c'était des collabos des Russes, des soviétiques, etc. Bon, donc, très prudemment, il en est resté sur le point des principes. Et c'est très bien ce qu'il a dit. Je pense que je souhaiterais que ce soit plutôt un président comme ça, plutôt que l'espèce d'histrion Macron, etc., qui fait semblant de « Ah, 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 attention, avec mon sabre de bois, je vais défendre la liberté en Ukraine, etc. » Enfin, bon, c'est Bernard-Henri Lévy à la tête de l'État, quoi. C'est inquiétant. Au bout d'un moment, il y a un dérapage de l'opinion publique. Voilà, j'ai même entendu un général ou, je sais pas, un militaire à la radio parler carrément de l'utilisation de nos armées pour défendre l'Ukraine. Enfin, c'est, où est-ce qu'on va, quoi ? On veut faire la guerre aux Russes ? Enfin, et il aurait fallu se poser cette question avant l'agression russe en Ukraine. Il aurait fallu, est-ce qu'on veut faire la guerre aux Russes ? Non. Alors, si on veut pas faire la guerre aux Russes, discutons avec réellement et adoptons des accords. Discutons de coopération, de paix en Europe, de désarmement nucléaire au moins en Europe, etc. Mais on n'a rien fait de tout cela. Et maintenant, ah bah mince, alors on a craché en l'air et ça nous retombe sur la figure, en plus fine. Je répète, hein, nous avons cette responsabilité, nos diplomaties ont cette responsabilité, pas les opinions publiques. Les opinions publiques, c'est des veaux, comme disait De Gaulle, hein. On leur fait penser, croire absolument ce qu'on veut. Hein. Y a eu d'autres guerres, hein, où on les a complètement intoxiqués, les gens. Hein, tu sais bien. Alors bon, on ne s'est pas dit que ce soufflet belliciste ne va pas retomber, etc. Et puis qu'on va redevenir rationnel, raisonnable. Alors bien sûr, tout de suite, les gens te disent « Ah bah ouais, comment veux-tu être rationnel, raisonnable et pacifiste avec un militariste brutal comme Poutine ?» Mais bien sûr que oui. Il faut négocier, bien sûr qu'il faut négocier. Il y a eu des négociations sur plein de choses, hein, sur la Corée, sur l'Allemagne. Les négociations, ça a toujours été avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Sinon, ça n'a pas de sens. Je répète, on a laissé passer des occasions, le mal est fait. Alors bon, mais immédiatement, évidemment, il se centre sur l'attaque russe en Ukraine. Et il ne l'approuve pas du tout, hein. Il la désapprouve vertement, hein. Mais il dit, il y a d'autres voies. Que d'envoyer des troupes pour empoisonner la situation en Ukraine aujourd'hui, elle est assez empoisonnée comme ça. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut alimenter la guerre civile en Ukraine. Alimenter la guerre civile. C'est d'ailleurs ce que fait Poutine en attaquant l'Ukraine. Il donne prétexte aux Occidentaux pour y envoyer des commandos, des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec la liberté ou la démocratie en Ukraine. Ça va être une guerre civile atroce, comme toutes les guerres civiles. Comme on a fait en Syrie, quoi. Où on a alimenté la guerre civile, on n'a pas hésité d'ailleurs à financer des mouvements islamistes contre Bachar el-Assad. Il fallait absolument désinguer Bachar el-Assad, tu vois. On a tout fait pour ça. On a fait des pires conneries, quoi. Ça ne veut pas dire que Bachar el-Assad est un type sympathique, hein, du tout. Mais ce qu'on a fait en Syrie, c'est de la merde. D'ailleurs, ça a été un échec.
Alors on se souviendra aussi qu'en 2011, la France est allée bombarder la Libye.
C'est incroyable, quoi, incroyable. On refait les mêmes erreurs. L'Ukraine nous touche parce qu'elle est à côté. Mais cette politique menée par l'Occident, par les États-Unis en particulier, c'est pas moi qui suis allé en Irak, hein. C'est pareil. Alors, Saddam Hussein était un beau salaud, etc., un tyran, un dictateur. Il fallait absolument intervenir pour abattre le régime de Saddam Hussein. Regarde la ruine dans laquelle se trouve l'Irak aujourd'hui, les malheurs du peuple irakien, du fait de notre intervention en Irak. On peut faire un parallèle avec ces conflits-là. Après tout, c'est la situation d'après la guerre froide. Ah, ça y est, les Russes peuvent plus nous emmerder au Conseil de sécurité de l'ONU, les Russes peuvent plus nous emmerder en envoyant des commandos, des trucs comme ça, donc on intervient absolument partout. Suivant que le régime nous plaît pas, etc. Mais enfin, c'est la guerre. Je crains cette situation parce qu'elle peut toujours déraper. À un moment donné, les Russes se sentant menacés, gravement menacés, utilisent leur arsenal nucléaire. Boum, voilà. Alors là, on va où, là ? Ou, inverse, les Américains, considérant que les Russes sont en train d'étendre leur domination à l'Europe occidentale jusqu'à la Bretagne, envoient leur arsenal nucléaire. Enfin, Ça me déprime. Enfin, franchement, je suis dans une situation d'esprit très agitée. Ça me remue, moi, cette histoire-là, parce qu'encore des morts. Parce que j'ai subi la Yougoslavie. Il faut comprendre que j'ai des amis qui sont morts là-bas, moi. J'avais des gens que je connaissais bien en Bosnie, dans un petit village entre Foča et Goražde. Petit village bosniaque, des gens très modestes, des paysans musulmans. Ces gens ont été tués, assassinés par... je pense des Monténégrins, enfin des bandes errantes, etc., qui ravageaient le pays, etc., à la faveur de cette guerre de Yougoslavie que l'Europe non seulement n'a pas empêchée, mais a favorisée. Alors là, c'est pareil. Comment faire pour détruire la Yougoslavie ? La Yougoslavie, c'était gênant, elle ne pouvait pas rentrer dans un seul morceau comme ça dans l'Union européenne. Et donc, il fallait la casser en morceaux. Ça n'a pas été difficile. Hein. On a suscité le départ, la sécession de la Croatie, de la Slovénie, etc., où la population était le plus pro-européenne, pro-occidentale, etc. Et puis voilà, ça a été le début de la guerre civile. Les Serbes ont considéré que c'était un démantèlement de leur pays, qui était un pays fédéral. Et ça a été la guerre. Alors, je ne donne pas raison aux Serbes non plus, dans les massacres qu'ils ont faits. Hein. Mais il y a eu aussi des massacres croates, dont on parle moins. Hein, les Ustachis, c'est quelque chose. Hein. Je ne parle pas des Ustachis de la Seconde Guerre mondiale, je parle des Ustachis actuels. Parce qu'à la faveur de ces décompositions, quelles sont les forces politiques qui naissent dans ces pays-là ? Et pour l'Ukraine, ça va être la même chose. Ça va être des nazis. Alors on a beaucoup daubé, rigolé sur Poutine qui veut dénazifier l'Ukraine. Mais il y a des nazis en Ukraine, bien sûr. D'ailleurs, on les a vus pendant la Révolution Orange. Hein, il y a eu une retraite au flambeau. Hein, avec des bras levés, etc., c'était des gens d'extrême droite. Hein. C'est pas un hasard. Alors, ils sont pas tous nazis, mais ces gens-là, c'est eux qui vont prendre le pouvoir en Ukraine. C'est eux qui vont prendre le pouvoir en Ukraine, parce que ce sont les meilleurs alliés des Occidentaux. Comme en Pologne. Hein. En Pologne, l'extrême droite est au pouvoir. L'extrême droite, très anti-russe, très pro-occidentale, etc., qui veut des armes nucléaires chez elle, etc., c'est l'extrême droite. Alors, pour qui on se bat ? Pour qui on se bat ? Alors, je veux pas dire que il faut écraser l'Ukraine parce qu'il y a un risque de pouvoir de nazillon, mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et c'est dramatique, quoi. Et c'était pas inévitable. On aurait pu faire autrement. Même après plein d'erreurs, plein de négligences, il était encore possible. Non, on n'a pas fait et on a laissé faire l'impensable, quoi. C'est une guerre en Europe, quoi. Elle a même plus d'objet idéologique, cette guerre. Car après tout, les Russes sont pas des communistes. Totalitaire. Hein, c'est un pays capitaliste comme les autres, etc. Donc de quoi est-il question ? Il est question des intérêts nationaux de la Russie, aggravés par le fait que, bien sûr, des années d'humiliation et de coups ont donné du pouvoir aux nationalistes en Russie. Poutine, sur quelle opinion il se maintient ? En grande partie sur l'opinion nationaliste en Russie. Et qu'est-ce qui favorise cette opinion nationaliste ? Eh bien, l'agressivité dont on fait preuve à l'égard de la Russie depuis 30 ans. C'est ça qui a nourri, parce qu'au départ, les nationalistes étaient archi-minoritaires en Russie, mais ne cessent de se renforcer. C'est évident, dans un pays qui se sent agressé, qui se sent menacé, ce sont ces partis-là et cette opinion-là qui finit par l'emporter. Et c'est dangereux, parce que la Russie est un pays militaire puissant encore. Alors, beaucoup moins puissant que les États-Unis et ses alliés réunis, bien sûr. Enfin, ça, ils peuvent faire très mal. Il aurait peut-être fallu neutraliser ces trucs-là. Et c'était faisable. Les Russes ont été partie prenante pour toutes les initiatives de désarmement nucléaire en Europe. Tout. Ils ont tout accepté. Dès que les Occidentaux étaient d'accord, ils étaient partants pour ces politiques-là. Tout a foiré. Les Américains se sont retirés successivement de tous les accords de dénucléarisation. Pour les Russes, comment interpréter ça ? Quels sont les ennemis en Europe ? Pourquoi avoir des armes nucléaires en Europe ? Quand tu mets des armes, tu fais une diplomatie, tu désignes ton ennemi. La diplomatie européenne a désigné son ennemi, c'était la Russie, point. Et on demande ensuite après aux Russes, ouais, vous fâchez pas, ouais. On n'a rien fait, nous. Ouais. C'est cliché, ouais. Bon, alors, je répète, je ne justifie pas l'attaque russe, ni la politique militaire des Russes, mais il faut comprendre pour en sortir.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de ce troisième volet d'émission autour du drame ukrainien. précédents épisodes disponibles sur notre site polemix-et-la-voix-off.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast et de réagir à l'émission si vous le souhaitez, avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne. Salut.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM.